Salut et bienvenue dans Ici Montferrand, le podcast du journal La Montagne consacré à l'actualité de l'ASM Clermont avec à mes côtés aujourd'hui les spécialistes du rugby, Arnaud Clergue et Christophe Buron. Bonjour messieurs.
Bonjour à toutes et tous. Bonjour
salut, Greg, salut à tous.
Et une étoile montante dans le rugby, journaliste aussi à La Montagne. Sans balmise.
Bonjour, je suis là pour faire le nombre.
Très bien.
Rookie.
On t'a pas benché aujourd'hui. C'est pas
rookie
vrai.
Of the year.
Oh, rookie of the year. Le Wembanyama de la rédaction.
Et bientôt sophomore. Alors juste, la question aujourd'hui, le renouveau de l'ASM est-il durable ? Après la victoire des Clermontois ce week-end, très belle victoire. Tu étais, Christophe, beau match de la part des Clermontois.
Super première mi-temps, ouais, en effet.
Face à Lyon.
Alors on va un peu pondéré en disant que cette équipe de Lyonnaise n'était pas trop descendue du bus et que sur les 35 premières minutes, même les 40, c'était quand même que l'ombre d'une équipe qui joue le haut du tableau, enfin qui voudrait jouer le haut du tableau, qui aurait des ambitions. Mais ça enlève rien au mérite des Clermontois qu'on fait preuve de maîtrise, de précision, ce qui n'a pas toujours été le cas sur cette première partie de saison. Donc oui, c'est un grosse première mi-temps, très probante, et après, bon, relâchement classique. Hein. Ouais, c'est... Mais c'est une victoire qui fait du bien et qui conforte et qui confirme ce mois de janvier, même si on avait un peu débordé sur février. Excellent pour les joueurs de Christophe Urios.
Ça va mieux pour Clermont, effectivement. Ce sera la première partie, donc consacrée au renouveau de l'ASM. Ensuite, on passera bien sûr au top et à vos flops aussi de ce week-end. Mais je me suis laissé dire en préparant ce podcast qu'il y aurait beaucoup de tops autour de la table. On verra ça tout à l'heure.
Ou des tops ou des flops déguisés, enfin.
Voilà, je comprends.
Des vrais faux tops.
C'est surprise. Le renouveau de l'ASM, à quoi on peut l'attribuer ? D'abord, avant même de parler de renouveau de l'ASM, je voudrais qu'on se mette d'accord sur le fait qu'il y ait réellement un renouveau. Est-ce qu'il y a réellement un renouveau
pour vous ?
Il y a un rebond.
Ah, c'est pas la même chose.
Ouais, ben voilà, il y a un rebond, renouveau. Je pense qu'il faut attendre peut-être la fin de ce mois et les deux prochains matchs.
Moi, j'ai envie de parler de renouveau quand on enchaîne.
Aussi,
quand on enchaîne 5 matchs en défaite, un match nul et 4 victoires, hein, si c'est bien ça. Hein. Non, moi j'ai envie de parler de renouveau. Renouveau en termes de résultats aussi, et aussi renouveau en termes d'attitude défensive. Alors, ce sont des mecs beaucoup plus concernés, beaucoup plus. Soudés, beaucoup plus groupés.
Depuis le début de l'année 2024, il y a eu un match nul au Stade Français, 14 partout, puis ensuite que des victoires, une victoire face aux Scarlets, une victoire aux Black Lions, une victoire à Castres, 23-20, c'était la semaine dernière, et puis là cette victoire 38-21 de l'ASM Clermont face aux Loups. Très récemment, Christophe, tu as interviewé Christophe Urios en entretien, qu'on peut retrouver d'ailleurs hein, toujours sur notre site web avec une très belle vidéo hein, qu'on pourra regarder de Christophe Urios. Il parlait de ce match face à Bordeaux, c'était donc en fin de saison, fin d'année dernière, qu'il avait marqué. On a l'impression que le renouveau de Clermont, la bascule, elle s'est faite à ce moment-là.
Ben c'est ce qu'il a dit cette semaine avant le match à Lyon. Hein. Il a dit que c'était une sorte de déclic, quelque part, que ce match-là avait été d'abord d'une injustice totale pour ses joueurs qui avaient, c'est vrai, réalisé un match... Alors pas complètement plein, parce que sinon il l'aurait pas perdu, mais un match... plutôt abouti offensivement, qui était plutôt en ballant. Ils avaient pris une entame un peu difficile. Et donc, il l'avait vécu comme une injustice, mais je crois qu'il a mis les points sur les i après le match. C'est ce qu'il a dit, d'ailleurs. Il avait dit aux joueurs, écoutez, les gars, ça ne peut plus durer. On ne peut plus filer des matchs comme ça, surtout à la maison. Donc, il a employé la formule en disant, je vous donne 24 heures pour changer. Donc, ils se sont retrouvés le surlendemain, et c'était le début de l'année 2024. Et là, force est de constater qu'au niveau des résultats, et comme disait Arnaud, du comportement, de l'état d'esprit sur plein de secteurs, on sent que ça va beaucoup mieux. Donc c'est vrai que Bordeaux est un peu une espèce de cap là, dans cette saison qui fait que l'ASM a gravi une marche. Tout à fait.
État d'esprit, première chose. Après, je voulais qu'on parle quand même en termes de jeu. Ce que vous voyez sur le terrain, Vincent, c'est meilleur ?
Bah, c'est mieux, et c'est surtout que, à mon avis, il y a cette histoire de déclic, mais il y a aussi le temps qui a fait son œuvre. Urios, ça fait un an qu'il est arrivé. Il y a des joueurs qui ne connaissaient pas encore le championnat en ce début de saison. Je pense à Simons, à Folau Fenga. Ils prennent de plus en plus de place dans le groupe. Ils prennent leur place de leader, quoi, tout simplement. Donc forcément, ça découle que sur du positif. Et donc, le jeu, ça s'est monté d'un... d'un vrai vrai niveau. Ça part de la défense, t'en parlais tout à l'heure Arnaud, mais il y a des mecs comme Bello qui sont en train de prendre la mesure et le jeu tout de suite, ça va beaucoup mieux quoi.
Alors Bello, on en parlera tout à l'heure, on va y revenir parce qu'on a déjà pas mal parlé la semaine dernière, juste parce que dans ce podcast on avait déjà pointé du doigt le manque de leadership au sein de l'effectif clermontois. Vous trouvez que ça va mieux vous aussi Christophe, Arnaud?
Alors leadership, pas vraiment, je trouve pas qu'il y a une personne qui incarne plus le leadership qu'avant, mais je trouve que c'est collectif.
Ouais.
Je trouve que collectivement, ils ont pris conscience de certaines choses, et je trouve que dans les matchs qu'ils font depuis le début de l'année, depuis le Stade français, défensivement, on sent une équipe vraiment groupée, une équipe vraiment soudée, qui a envie de défendre sa ligne, qui a pas envie de lâcher, qui a pas envie de lâcher en fait.
Tu sens une équipe solidaire.
Une équipe solidaire, exactement. Les mots me manquaient, mais c'est solidaire. Et c'est dans la défense près des lignes notamment. Je trouve une équipe beaucoup plus patiente, beaucoup plus soudée. Et c'est vrai que ils encaissent moins d'essais quand l'équipe adverse est proche des lignes.
Sur les leaders. Je dirais qu'il y a quand même des leaders qui sont beaucoup plus identifiés aujourd'hui. Alors, peut-être pas des leaders comme on. Dans le sens où on le concevait du temps des Camille Lopez, des Morgan Parra, des Aurélien Rougerie, ce genre de joueurs qui avaient une forte incarnation par rapport au club, ne serait-ce que par rapport à leur vécu. Là, on a des vrais leaders, mais qui sont des nouveaux joueurs, c'est ce que disait Vincent, c'est-à-dire qu'ils ont pris le temps de s'adapter et à l'ASM et au rugby français, au top 14. Et tu les as cités, Fainga, Simons, Kramer à sa façon, est un leader. Et aujourd'hui, ces joueurs-là sont beaucoup plus identifiés, et par le staff, et puis par les partenaires, que sur la première partie de saison. Et puis moi, j'ai toujours en mémoire, dans le doc de Canal, cette réflexion d'Urios de dire qu'après la préparation estivale et ces fameuses Olympiades où Jaunard, enfin les journées Jaunard et compagnie,
Là où ils les avaient emmenés effectivement une série d'épreuves,
des stages et compagnie, qui lui sert à Urios de.
C'est un stage d'intégration quoi.
D'intégration à déceler un peu les mecs qui vont être un peu au-dessus. Et là, il dit.
En termes d'autorité, tu veux dire?
J'y vois moins clair qu'avant, donc il y avait un vrai problème. Là aujourd'hui, on sent que ces joueurs ont émergé et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça va mieux.
Ok. Donc oui.
Dans l'expression collective que je disais tout à l'heure, il y a une image moi qui m'a marqué pendant le match contre Lyon, c'est quand Dzamanachvili est rentré, le jeune géorgien, le jeune pilier droit géorgien, et qui gagne une pénalité sur la mêlée lyonnaise. J'ai vu un groupe se ruer sur lui et le féliciter et se taper dans la main. Et là, je me suis dit, ouais, il y a un truc qui est en train de naître dans cette équipe, une envie collective, une force collective que je n'avais pas forcément vue auparavant. Donc, peut-être des leaders sont sortis du bois, ça c'est sûr, mais je trouve que dans l'expression collective, c'est beaucoup mieux.
Alors, on a parlé effectivement de l'état d'esprit, beaucoup. On a parlé un peu de jeu avec la défense. En termes offensifs, est-ce qu'on voit un peu plus de choses? Est-ce que la patte Christophe Furios est en train de s'imprimer?
Alors, la patte, tu parles du jeu offensif, c'est pas trop son truc.
Christophe Furios, ouais.
Non, il le dit lui-même, le rugby, bon. Lui, c'est vraiment le management, la gestion des hommes et tout. Mais en termes de jeu, c'est un secteur qui incombe plus à Frédéric Charrier, par exemple. Il y a du mieux, on voit bien. Ça fait 3-4 matchs où il y a des essais en première main.
Castres, notamment.
Notamment celui de Castres, il est magnifique. Il y en avait eu un en Géorgie. On en a vu aussi contre Lyon.
Ils ont été performants, si je me rappelle bien, sur les lancements en touche notamment. Ouais. Sur le deuxième temps, troisième temps, ils ont été très efficaces là-dessus.
Mais même sur des essais en première main, on a vu des combines qui étaient bien huilées.
Le premier essai de Raka, c'est un essai en première main.
Ouais, et ça, c'est un peu nouveau, oui, tout à fait. Et ça tient aussi à la confiance et à la montée en puissance des joueurs qui sont là pour animer le jeu. Anthony Bello en est l'illustration.
Puis c'est des essais variés. Il y a de la conquête, il y a de l'alternance. Bello là, vachement bien manœuvré là. Samedi, il est perdu.
Alors, on a déjà parlé la semaine dernière, puisque c'était le thème de notre podcast sur Anthony Bello, de savoir s'il avait glané ses galons de titulaire. Je ne vais pas refaire le podcast de la semaine dernière. En revanche, la question que je voulais poser, est-ce que le renouveau de l'ASM est aussi imputable à Anthony Bello? Parce que finalement, c'est depuis qu'il est là, à la place d'Urdette Pilatec.
Quand tu as un disque qui est en confiance,
c'est
quand le chef d'orchestre est en confiance et... huiler les rouages de l'attaque, forcément l'attaque fonctionne bien mieux, oui.
Ta question, c'est un peu de l'œuf ou de la poule qui était là, tu vois, ce que je veux dire.
C'est bien parce que je me pose la question que je me la pose.
J'ai envie de dire que c'est un peu les deux, mais c'est surtout aussi la montée en puissance de l'équipe qui fait qu'il évolue plus en confiance.
C'est plus facile de jouer derrière une équipe
qui
avance.
C'est plus facile, exactement, quand tu as un pack qui commence à prendre ses marques et qui commence un peu à tordre tout le monde, c'est beaucoup plus facile pour un ouvreur et pour un demi de mêlée d'animer le jeu.
Après, je trouve que Bello est meilleur et bien meilleur qu'avant dans sa conduite du jeu. Il attaque la ligne, il varie super bien. Franchement, moi je trouve que ça participe au regain d'énergie de l'attaque clermontoise. C'est obligatoire.
Bon, si je vous écoute dans le joyeux monde des bisounours du top 14, la SM c'est champion.
Non, pas vraiment.
Parce que là on a que du positif là pour l'instant.
Ils sont dans les 6, ils sont candidats au titre.
Oui, alors ça on en parlera tout à l'heure effectivement. donc c'est la deuxième partie de la question qu'on voulait développer. Est-ce qu'il y a un renouveau à la SM, OK, est-ce que c'est durable?
Moi je dis que c'est un rebond très favorable et qui est confirmé de semaine en semaine, mais je demande 2 semaines de plus, enfin.
Parle bien en face de ton micro, s'il te plaît.
Comment?
Parle bien en face de ton micro.
Le mois de février et les 2 prochains matchs. Rappelons-le. Ils vont à Bayonne pour la reprise 17 février et recevront le dimanche 24 le Stade Toulousain. Je pense qu'au terme de ces 2 matchs, on pourra faire un point très précis sur leur réelle chance d'être dans le top 6 au mois de juin.
J'ai le droit d'être facétieux et de dire qu'ils se déplacent à La Rochelle juste après.
Oui, mais ça fait partie du même bloc. Mais à La Rochelle, voilà, tout ça va dépendre de ce qui sera passé sur les 2 matchs précédents. Je ne suis pas sûr que ce soit une priorité à La Rochelle. Voilà.
Ça peut être une petite impasse, tu veux dire.
Un pass, je sais pas, mais s'ils gagnent les 2 qui arrivent, il va y avoir des joueurs qui vont faire remonter la moyenne des gifs. Et on sait que
c'est
un des points faibles, les talons d'Achille de cette équipe. Il faut qu'elle rétablisse un peu la moyenne.
Sur les gifs,
joueurs formés en France.
Ils sont en dessous de la fameuse moyenne de 15.
Ça veut dire qu'ils vont aligner 16. Pourtant, ils vont aligner plus de gifs.
Non, c'est 16.
Plus de gifs à La Rochelle, c'est ça?
Ah oui, oui, ouais, oui.
16. Ah oui, 16.
C'est 16.
Donc une équipe peut-être
pour bien indiquer à nos auditeurs que si la championnat s'arrêtait, Clermont débuterait la saison prochaine avec des points en moins au classement.
Tant ils n'ont pas mis assez de gifs sur leur feuille.
Il doit être pas loin d'être dernier de la classe tout de suite.
Donc il faut
ils sont à 15,9 et quelques de moyenne de gifs. Il faut être au moins à 16.
C'est Montpellier, je crois, les derniers de la classe en termes de gifs.
Vincent, t'es d'accord avec ça, toi? Si Bayonne et Toulouse, ça gagne pour Clermont, ça veut dire que ce renouveau est durable?
Ce sera très favorable en tout cas pour la course au top 6. Après, moi, là où je note des progrès à faire, c'est dans la maîtrise d'un match sur 80 minutes.
Ah bon, on est d'accord.
C'est livrer une première mi-temps comme ça, et bien sûr qu'on s'attendait à ce que le niveau de jeu baisse, mais on pouvait s'attendre aussi à une meilleure maîtrise, pas se mettre le feu. Finalement, on était presque à trembler pour ce point de bonus offensif. Il y avait quand même 5 essais à 1, je crois, à la mi-temps.
Après, ça reste de l'ordre, on va dire, c'est de l'ordre naturel des choses. Quand tu as dominé comme ça en première période, c'est difficile de maintenir le curseur.
Oui, mais il
ne
faut pas se faire peur comme ça sur des choses.
Je suis d'accord avec toi, mais je mettrais juste un petit bémol sur une des particularités du top 14 depuis quelques temps, et notamment cette saison. T'as pas un club qui fait une...
Tu devances mon top 14.
top 14, t'as personne qui fait 88, tu vois, même Toulouse. Quand met 20 à Bayonne, ils ont eu un trou, quoi. Trou qui a permis à Bayonne de revenir à 5 points.
Le championnat est particulièrement resserré. Ouais.
C'est parce que c'est des problèmes de banc de touche. Toulouse, ils ont je sais pas combien de joueurs en sélection.
Oui, mais il n'y a pas donc Toulouse. J'ai pris cet exemple-là, mais il y en a plein. Regarde de Toulouse-Bordeaux, regarde tous les matchs. Ils mènent de 12 points contre Castres, ils en prennent 40 à la sortie à la maison. Il y a des creux parce que tout le monde est capable de gagner partout.
Mais
voilà. Même Perpignan a été gagné à Castres.
Ce qui m'a dérangé là, c'est que le Loup en fait a profité de la bêtise un peu dans le jeu. Ils se sont mis le feu.
Alors,
tout seul.
Attention, le scénario de ce match a fait que on a assisté à un truc qui existe quasiment jamais. C'est-à-dire que en deuxième mi-temps, il y a une équipe qui était sur le terrain à qui on a dit, plus un coup de pied, vous relancez tout partout, je veux que vous gagnez la deuxième mi-temps, qu'importe si vous en prenez 60, je veux que vous montrez un autre état d'esprit. Donc c'est voilà, et puis en plus ils ont les joueurs pour, les radradras et compagnie.
À croire qu'ils devraient tout le temps jouer comme ça.
Ah non, parce que tu ne peux pas construire. Si tu veux, la défense de l'ASM n'aurait pas été la même s'il y avait eu 3 points d'écart.
Ouais, c'est sûr.
Et Lyon n'aurait surtout pas joué comme ça.
Et clairement, ils ont failli tomber dans le panneau en fait. Il y a des fois où ça mérite de casser ce rythme. Mais casser le rythme
aussi,
prendre le temps.
Mais t'as raison.
Toujours aussi... il y a toujours aussi ce problème de banc de touche côté Clermontois. Dès que le banc de touche rentre, c'est toujours un,
c'est
petit
un peu plus faible.
Mais Arnaud, ouais, c'est un peu plus Arnaud, on en revient au débat de début de saison. On le sait depuis le début,
oui, oui, bien sûr,
que ce club,
c'est évident. C'est
un effectif, ils peuvent lutter pour le top 6 et jouer le haut du tableau que s'ils ont un minimum de blessés. Ils n'ont pas une profondeur de banc pour traverser une saison tranquille. On le sait depuis le début de saison.
Donc l'objectif, c'est bien de se qualifier pour le top 6 et puis de voir ce qui se passera ensuite.
Ah bah après, c'est, ah bah oui. Après, c'est autre chose. Oui. C'est notre championnat.
Si tu es dans le top 6, tu es candidat.
Donc, je vais terminer quand même par le juge de paix, le tour de table. Arnaud, durable ou pas durable? Oui, non. Sans argument. Ok, tu reviendras tout à l'heure.
Je vous répondrai fin février, comme disait Christophe.
Ok, Vincent. Oui, non. Ok, merci.
C'est pas évident parce que ce que je disais tout à l'heure.
Non, j'aime bien quand il faut trancher. Là, il y a plus personne. Christophe,
il y a beaucoup de signes au vert, beaucoup de signes positifs.
Incroyable.
Mais rendez-vous fin février.
Ok, ok.
Tu veux vraiment une réponse
Non. Votre réponse est très claire. C'est non, mais à fin février, ce sera peut-être oui. Très bien. Vous avez compris. C'est ça. Vous avez bien compris. Voilà. Merci. On a fait le tour de la question. On va passer au top flop. Arnaud, pour toi, ce sera un flop top ou un top flop?
Ça pourrait être un flop, mais ça va être un top. Pour moi, la sévère défaite concédée face à l'Irlande par l'équipe de France peut être positive. Donc, j'ai envie de dire que c'est un top. C'est
paradoxal. Alors là, il va falloir que tu nous expliques, oui, parce que pour le coup, c'est paradoxal.
Je trouve que le staff de l'équipe de France, après le traumatisme de la Coupe du Monde et l'élimination en quart de finale face à l'Afrique du Sud, je trouve que le staff n'a pas fait son autocritique sur le jeu, sur le vrai bilan de cette équipe de France.
C'est venu très tard, on s'en rappelle, les premières déclarations réelles de Christophe Galtier, c'est quasiment un mois plus tard. Hein,
Galtier, s'il vous plaît.
Christophe Galtier, c'est
le ballon.
Pardon, merci Christophe. Fabien,
oui,
pardon.
C'est la journée.
les explications sont arrivées un mois plus tard en disant que voilà, sur les datas, l'équipe de France méritait de gagner. Ouais. Alors peut-être. Que sur les datas, l'équipe de France méritait de gagner ou peut-être pas, on ne sait pas. Mais il n'y a pas eu d'autocritique profonde sur le jeu, la stratégie, etc. etc. Là, on a vu vendredi dernier à Marseille une équipe totalement dominée par l'Irlande. Enfin, les Irlandais, ils nous ont roulé dessus tout le match, 80 minutes. Et même, on peut débattre du carton rouge de Willem C. Est-ce que si la France aurait été à 15 contre 15, moi je pense que ça aurait été pareil. Il y aurait peut-être eu un ou deux essais de moins, mais l'Irlande aurait dominé totalement aussi. Et donc ce cinglant revers, je pense que maintenant oblige le staff à faire une autocritique et à vraiment relancer un projet parce que on a vu la différence entre une équipe qui doute et une équipe qui est sûre de ses forces.
C'est un peu comme la question tout à l'heure. C'est un peu oui-non quand même, parce que c'est un top, mais on ne sait pas si c'est vraiment un top. Parce qu'il
je ne vois pas en quoi c'est un top, là, ce que tu dis.
Oui.
Je ne vois pas du tout.
Si, parce
tout ce que tu dis est vrai, mais ce n'est pas un top. Attends, laisse-moi finir. En quoi le match aurait été différent si Galtier avait fait une autocritique de la Coupe du Monde? Pour moi, les raisons, elles ne sont pas là. Il ne l'a pas faite. Je suis d'accord avec toi. Tout ce que tu as dit est vrai. Mais pour moi, non. C'est les raisons de l'échec de vendredi, c'est pas parce qu'ils n'ont pas digéré la Coupe du Monde. Enfin,
non, j'ai pas dit c'est parce qu'ils n'ont pas digéré la Coupe du Monde. C'est parce que on est reparti sur quelque chose sans rien changer, quoi.
Ah non, mais
quel a été le projet de jeu là?
Dans ce cas-là, c'est sur le projet de jeu de Galtier et sur le manque peut-être d'alternance par rapport à ce qu'il a mis en place pendant la Coupe du Monde. Là, je suis d'accord.
Oui, mais
il le fera pas.
Je suis d'accord avec toi.
Alors,
mais pour moi, il fallait cet électrochoc pour partir sur un
sauf
autre que,
truc. Sauf
c'est que, ce que je veux dire.
Alors moi, je suis d'accord. Avec vous deux, mais c'est un top que s'il y a quelque chose qui change, c'est rien de grave. Ça va être un flop.
Ça peut être un top.
On dit un flop ou un top comme vous voulez.
Ça peut être un top si vraiment il en tire les leçons. Mais j'attends de voir, mais je ne suis pas sûr.
Oui,
hein.
Mais je pense que c'est un top parce que je pense que ça peut être un électrochoc.
On est d'accord, tout ce concept top, qu'il aurait fallu qu'il y ait, en tout cas, à défaut de le faire dans les médias, qu'il y ait une autocritique qui soit réalisée, qu'il y ait un changement dans le jeu de l'équipe de France. Ce qu'on n'a pas forcément vu. On est d'accord.
Voilà. Et peut-être des changements de joueurs.
C'est un flop.
C'est
un flop.
Oui, je suis d'accord avec ce qu'il dit. J'attends de voir quand même.
Ok, alors là, c'est intéressant juste parce que c'est une question qu'on peut se poser. Paul Williams est coupable ou moyen coupable ?
Oui, bien sûr. Coupable. Oui, bien sûr. Coupable. Ouais. Et en plus, il le fait deux fois.
Voilà.
Ah bah oui, c'est parce qu'il le fait deux fois qu'il exclut. Hein.
Qu'une fois. Quand tu de le faire une fois, ça peut arriver dans le jeu de charger à l'épaule, le mec se baisse en face un peu, voilà. Mais tu le fais deux fois, non, c'est pas trop excusable. Donc entièrement fautif. Ouais.
Vincent, top ou flop ?
Top. Top 14.
Ah bravo Vincent, t'écoute.
Parce que ce championnat me plaît bien. On a la sensation que tout le monde peut gagner, tout le monde, partout. Cette journée, je crois qu'il y a encore eu 3 victoires à l'extérieur, si je ne me trompe pas.
Ouais.
Le classement change de week-end en week-end.
Ouais. En revanche, il y a des top flops pas beaucoup. Hein. Je tiens à le dire parce que ce top, on l'a déjà eu il n'y a pas longtemps. Donc ce sera carton jaune, Vincent. Et,
c'est parce qu'il ne nous écoute pas assez.
Animate, s'il vous plaît.
Participe pas assez.
Ce top, on l'a déjà eu. Et ouais. je me permets de
c'était
dire.
C'était mon top il y a 15 jours.
Ouais.
Et on peut rien dire. Dans ce podcast.
Non, mais là, c'est Animat, on discute pas.
Je me rappelle, je suis un jeune espoir, laissez-moi une chance.
C'est un top, on me dit que c'est... j'ai voulu faire un top, j'ai voulu faire un truc un peu original, tu vois. Eh ben non.
Oui. Ah bon, vous avez compris quoi.
Ouais, bah oui, nous on a compris.
J'aime bien ce championnat.
On l'a déjà écouté.
On est loin des heures où gagner à l'extérieur c'était impossible.
C'est ça.
Et j'aime bien cette idée-là.
C'est ça. Et j'avais même dit à l'époque, c'est un top pour le public, mais pas pour les parieurs. C'est un flop pour les parieurs. C'est bien plus compliqué. Voilà. Je vais en faire le podcast il y a 15 jours, je m'en fous.
Voilà.
Christophe, top ou flop ?
Alors moi, mon top, c'est cette équipe de l'UBB qui m'a bien plu hier. Parce qu'elle a eu. Bon, d'abord, elle a pris le score très vite, mais bon. C'est un peu sur un fait de jeu. Au bout de 29 secondes, marquer un essai, c'est quand même pas fréquent. Après, ils se sont fait un peu concasser par cette équipe de Toulon qui était un peu qui avait pas trop de droit de perte chez elle, qu'à Mayol. Mais c'est voilà, comme pour revenir sur le fameux top de Vincent, dans ce top 14 où tout le monde peut gagner partout. Bah, personne ne lâche. On voit pas d'équipe qui lâche.
Victoire 37 à 14 de l'UBB à Toulon. 37 à 32.
Oui, 37 à 32. Et jusqu'au bout, ils se sont accrochés et puis ils ont tout fait pour gagner ce match. Mais ça me fait penser à Lyon qui était mené 33-0, qui n'a pas lâché. Et même en fin de match, ils ont tout fait pour pas que Clermont. Ah, ils ne pouvaient plus gagner le match. Hein. Ils ne pouvaient même plus gagner un bonus défensif.
Mais même à la mi-temps.
Mais ils ont tout fait pour empêcher que Clermont marque un bonus offensif. Donc tout le monde s'accroche partout. Et à l'image de cette équipe de Bordeaux, moi qui m'a bien plu hier soir et sur ce dernier essai. Bah, bravo à eux sur cette relance de 90 mètres. En plus, c'est ouais. Comme ça, c'est magnifique. C'est beau pour le spectacle, même si le public de Toulon a dû modérément apprécier.
Il va y avoir une pause. On va aussi faire une pause dans les podcasts consacrés à l'ASM. Le retour des Clermontois le 17 février, c'est une petite pause, mais c'était un gros bloc quand même pour les Clermontois.
Ah bah, 15 matchs pour tout le monde, hein, pour, entre les compétitions européennes et le top 14. Depuis fin octobre, ils étaient sur le pont. Fête comprise de fin d'année, donc 15 matchs d'affilée, c'était un gros bloc, un très très gros bloc.
Ils vont faire quoi ? Ils vont partir en vacances une petite semaine ?
Une semaine de vacances, ouais. Puis lundi prochain, ils sont sur le pont pour un nouveau bloc de 4 matchs, parce qu'il y aura encore une pause mi-mars, je crois. Donc voilà.
Place au tournoi, de toute façon, pas de podcast, on peut pas en discuter avec vous du tournoi.
je veux bien débattre de l'équipe de France.
Bien vu. Eh ben, rien nous empêche de le faire. L'équipe de France qui jouera ce week-end, Arnaud, c'est ça ?
En Écosse, oui.
Exactement, en Écosse.
On verra donc si c'est un top ou un flop.
Effectivement. Merci, messieurs. Très bonne semaine à vous. À bientôt. Ciao.
Salut.
Ciao.
Ciao.